France Inter.
I'd like to introduce him now to say a few words. Mr. Prime Minister.
Thank you, Mr. President. Donald, this is a really fantastic, historic day in which we can announce this deal between our two great countries. And I think it's a real tribute to the history that we have of working so closely together.
Allô, c'est Donald Trump qui appelle Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Nouvelle mise en scène jeudi dans le bureau ovale. Parlons en visio et devant les caméras, à l'intention du reste du monde chaviré par les droits de douanes américains, du tout premier accord signé entre les États-Unis et le Royaume-Uni donc. Bah oui, tout ça pourquoi ? Fantastic, historic, symbolique plutôt. Deux points à retenir de ces cinq pages négociées en toute hâte. D'abord, en réalité, les droits de douane vont bien augmenter pour la majorité des biens britanniques, moins que prévu, mais quand même jusqu'à 10%, et c'est encore beaucoup. Second point pour contenter Trump, Starmer n'a pas été obligé d'aller à Canossa. Il n'a pas cédé sur l'essentiel. C'est toujours no way pour les poulets à la javel et le bœuf aux hormones. Et la taxe sur le numérique qui agace les GAFAM, eh ben elle ne bouge pas. Bon, mais pour ces deux-là, la discussion, on le savait, elle était possible, hein, voire piece of cake. Elle sera plus tendue avec nous, les Européens, et carrément hardcore tout à l'heure avec la Chine. La dernière fois, Chinoises et Américains ont mis 2 ans pour trouver un compromis. Et cependant, aujourd'hui, les deux parties savent bien que la situation de blocage actuelle n'est pas tenable. Sur CNN, les commentateurs s'inquiètent d'un nouveau choc sur les chaînes d'approvisionnement, d'éventuelles étagères vides, comme pendant le Covid. La guerre commerciale trop dure, avant tout pour les Américains. C'est peut-être pour cela qu'à la Maison-Blanche, on assiste à une nouvelle volte-face. Eh bien, finalement, Trump envisagerait d'augmenter les impôts sur les ultra-riches.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans votre magazine de l'économie. Toute l'équipe est là pour vous saluer et vous accueillir. Même mon chat dans la gorge, j'en suis désolée. Valentin Pérez, mon coproducteur. Emma Bouvier, notre attachée de production. Les réalisateurs Étienne Bertin et Mathias Volant. Selim Guéribi signe les mix. Et ce matin, c'est Thomas Allard qui nous accompagne à la technique. Nous parlons de diversité ce samedi 10 mai dans le Mag Echo. Notre reporter Valentin Gris s'est demandé comment les personnes transgenres s'insèrent dans le monde du travail, comment elles vivent leur transition dans un parcours professionnel, comment les entreprises les accueillent ou les accompagnent, des témoignages que vous allez entendre. Mais la diversité, ça n'est pas ce que vous croyez, ça c'est le titre de l'ouvrage que publie notre invité, Olivier Sibony. Il est professeur à HEC et à Oxford. Il nous promet qu'il va démonter quelques idées reçues sur le sujet. Eh bien, un interview vers 9h40. Madame Vioboulot, elle est là avec nous aussi, bien sûr. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Sandrine, dans la boîte aux lettres, on n'arrête pas l'écho, on a toujours beaucoup de questions sur les retraites, et par exemple, celle de notre auditrice Armelle.
Oui, Armelle va bientôt avoir 60 ans, elle est très intéressée par la retraite progressive, mais elle veut savoir si elle va beaucoup y perdre financièrement.
Ouais, c'est mieux de savoir avant de décider. Hein. Armelle, Sandrine Foulon, elle vous répond juste avant 10h, mais restez avec nous au chapitre retraite. Ce matin, nous débattons d'un autre sujet brûlant avec Sophie Fay du journal Le Monde au service économie. Sophie, salut.
Salut Alexandra, bonjour à tous.
Et Marc Vigneault, notre confrère de l'Opinion. Hello Marc.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Bah oui, il y a débat sur la capitalisation, les articles, les tribunes se multiplient. La question agite les partenaires sociaux comme le personnel politique. Par exemple, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui voudrait une grande partie de capitalisation dans le système. Alors, bah, on va en débattre. L'étage capitalisation est-il nécessaire désormais à notre système de retraite ? Pour être plus direct, est-ce que la CAPI, c'est déjà écrit ?
Ouvrons un fonds souverain en vendant une partie des dizaines de milliards d'actions que gère l'État aujourd'hui. Et organisons avec le produit de ces actions le début de la retraite par capitalisation, le seul capable de garantir notre système social.
Gérald Darmanin, ministre de la Justice.
Nous pourrions imaginer qu'au-delà d'un socle minimum de retraite par répartition, c'est la capitalisation de chacun qui doit prévaloir.
La capitalisation ne va pas résoudre le problème des retraites en France.
Emmanuel Grimaud, fondateur du cabinet de conseil en ressources humaines Maximis Retraite.
si on voulait demain verser 30% des retraites via un système de capitalisation, ça veut dire qu'il faudrait accumuler 150% du PIB sur les fameux fonds de pension. Autant vous dire que c'est pas près d'arriver quand vous voyez la difficulté du gouvernement à aller gratter un point de PIB.
Et les systèmes par capitalisation, la majeure partie du temps, sont des systèmes qu'on appelle à cotisation définie, c'est-à-dire je sais combien je paye, mais je ne sais pas combien je récupère.
Agathe Leberder, secrétaire adjointe de l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens CGT.
Et c'est le principe même de ces systèmes qui ne garantissent pas pour leurs souscripteurs d'avoir une rémunération à la retraite. Et c'est d'ailleurs pour ça que les systèmes par capitalisation qu'on a eus historiquement en France se sont effondrés.
Je suis contraint de constater que l'on continue à nous refuser la vérité, celle d'un système de retraite qui n'est plus par répartition depuis longtemps.
Stéphane Vogetta, député Ensemble pour la République.
Un système qui, à cause de prestations excessives ou bien à cause de cotisations insuffisantes, ou les deux, creuse notre dette publique pour honorer les pensions des retraités actuels et, ce faisant, endette leurs enfants et leurs petits-enfants qui, eux, devront un jour payer la facture.
Michaël Zemmour.
La plupart des autres pays européens ont un étage de capitalisation.
Enseignant-chercheur, Université Lyon 2.
Et le résultat de ça, c'est un niveau de pension un peu plus faible, en moyenne, parce que les cadres ont le même niveau de pension qu'en France, mais les classes populaires qui ont des interruptions de carrière ont un peu moins de retraite. Parce que la capitalisation, bah, quand vous avez une interruption de carrière, que vous n'êtes pas en emploi, c'est personne ne va cotiser à votre place.
La capitalisation, c'est risqué, la répartition, c'est pas risqué. Je suis désolé, vous avez un risque politique sur la répartition.
Bertrand Martineau, économiste associé à l'Institut Montaigne.
Un jeune aujourd'hui qui rentre sur le marché du travail, est-ce que vraiment il va croire les promesses que lui font un gouvernement dans 45 ans? La réponse est non, évidemment.
Évidemment, est-ce que tout est si évident dans ce dossier? Alors, Sophie Fay, je me tourne vers vous. On commence par se faire la contextualisation, on en a tous besoin. La capitalisation, vous nous faites un peu la photo, l'histoire?
La capitalisation, le grand pays de la capitalisation et des fonds de pension, c'est les États-Unis. Et évidemment, ça leur donne une puissance qu'ils peuvent être actionnaires, de très gros actionnaires de toutes les entreprises dans le monde et un peu imposer leur système.
Mais alors, faites-nous la définition.
La capitalisation.
Avant de nous dire à quel point c'est puissant, faites-nous la définition.
Alors, le principe, c'est que chacun cotise dans un fonds de pension. Donc, on met de l'argent de côté. Et cet argent, il est placé collectivement, mais il est individuel, c'est-à-dire que chacun a droit à ce qu'il a cotisé et à la fin, au moment de la retraite, vous le touchez sous forme de rente en fonction à la fois de combien vous avez épargné individuellement et de la manière dont ça a été placé, donc du rendement de la bourse et du rendement des marchés financiers. Et puis, ça existe aux États-Unis, mais ça existe aussi en Europe. Il y a un grand pays européen qui est réputé pour la capitalisation. Ce sont les Pays-Bas qui ont d'énormes fonds de pension. Alors, ces fonds de pension, ils sont pas... on cotise individuellement, les droits sont individuels, mais ils sont collectifs dans leur manière de gérer. On a souvent des grands fonds de pension par profession, comme le fonds CalPERS qui réunit les enseignants aux États-Unis, en Californie, ou aux Pays-Bas, c'est pareil, c'est par grande profession et c'est géré collectivement, donc par les représentants de ces professions. Vous avez aussi des fonds de pension pour les religieux aux États-Unis.
Et nous, on n'a pas choisi ça.
Alors nous, on n'a pas choisi ça, mais on a un peu choisi ça quand même. En 1910, on a fait une loi sur la retraite des ouvriers et des salariés agricoles, et on a mis en place un fonds une retraite par capitalisation. Et à l'époque, Jean Jaurès était favorable à ça, parce que ça, c'était une gestion collective, et les fonds appartenaient bien aux ouvriers. Et puis on a recommencé, après la Première Guerre mondiale, à relancer en 1928 une loi sur la capitalisation. Le seul problème, c'est que ces fonds ont été rincés par la Première Guerre mondiale et par l'inflation, et que ça a laissé un mauvais souvenir aux gens. Donc après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et là, on a décidé de mettre en place la retraite par répartition, et celle-là, faut reconnaître qu'elle a plutôt bonne réputation et qu'elle a une bonne image, parce que quand vous voyez le niveau de vie des retraités en France, il est très bon, on dit même qu'il est légèrement meilleur à celui des actifs, et on voit que ce système, à l'instant T, il est très bien accepté par ceux qui en profitent.
Marc Vigneault, est-ce que vous ajoutez quelque chose à la photo?
La répartition a formidablement profité du fait que, après la guerre, il y avait peu de pensionnés et on a pu cotiser pour la génération suivante et servir des bonnes pensions, comme la retraite par capitalisation a souffert du fait qu'il y a eu deux guerres mondiales et donc le système venait à peine de commencer. Pourquoi Jaurès était favorable aussi, c'est parce que avant, il n'y avait pas de système vraiment de retraite. En fait, c'était les premiers systèmes de retraite. Et donc, évidemment, les socialistes de l'époque y étaient favorables. Ce qu'on peut noter quand même en France, c'est qu'on a de la capitalisation, mais un peu sans le dire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes de capitalisation pour les fonctionnaires. Il y a un système volontaire pour les fonctionnaires qui s'appelle la préfonds, qui a été créé par des fonctionnaires pour dire « bah nous, on voudrait cotiser un peu plus sur nos retraites ». Et donc, on fait un système par capitalisation qui est géré en partie par la CGT. Hein, c'est assez marrant. Et donc, ça sert une petite pension additionnelle qui est placée sur les marchés financiers. Et c'est effectivement... La répartition, c'est quoi ? C'est le fait de mettre sa cotisation, elle va permettre de payer les retraites des pensionnés d'aujourd'hui, c'est-à-dire de vos parents, de tous ceux qui sont à la retraite.
C'est-à-dire les actifs d'aujourd'hui paient pour les pensionnés d'aujourd'hui.
Exactement. Alors que là, bah, quand vous mettez votre cotisation dans le fonds, eh ben, c'est pour vous, pour plus tard, ça fait des petits sur les marchés financiers, c'est géré collectivement là, dans ce fonds pour les fonctionnaires et ça fait une partie de la retraite. Donc ça, c'est une retraite optionnelle. Et il y a une retraite obligatoire pour 4,5 millions de fonctionnaires, donc qu'on ne connaît pas trop, qui est géré par un établissement qui s'appelle l'ERAFP. Je vous passe les détails.
Passez-nous l'acronyme.
Ce qui est assez marrant, c'est que l'INSEE vient de reclasser cette retraite par capitalisation hors des administrations publiques en disant que c'était la retraite par capitalisation et donc qu'on ne le comptait pas dans les administrations publiques. Ça sert pourtant une retraite aux fonctionnaires. Ça a été créé il y a 20 ans. On cotise sur la partie prime et pas sur évidemment le traitement de base qui cotise à la répartition. Et puis ça sert un petit complément de salaire, alors qui n'est pas gros parce qu'on cotise sur une petite partie des primes, jusqu'à 20% des primes. Mais ça sert quand même, par exemple, pour une infirmière à peu près à 2000 euros, ça sert à peu près 45 euros de pension. Ça a commencé il y a 20 ans et ça va monter en puissance. Et voilà, c'est un système par pure capitalisation avec de la gestion qui est garantie par les syndicats de la fonction publique. Et donc, voilà, il n'y a pas de... Chacun ne joue pas dans son coin sur les marchés financiers.
Alors, vous avez, là, comme vous l'exprimez, ça a l'air simple, et pourtant, c'est un vrai débat en France. Avons-nous besoin, aujourd'hui, de mettre de la capitalisation ? Et ça, c'est le premier point. Et si oui, jusqu'où ? Et si oui, est-ce que ça doit être obligatoire ou pas ? Sophie Fay, comment vous abordez ce débat ?
Je l'aborderai en deux temps. Il y a La situation d'urgence, hein, les partenaires sociaux sont en conclave pour trouver une solution, pour réfléchir est-ce qu'on repousse l'âge de la retraite ou pas, est-ce que le système est à l'équilibre. Eh bien, je vais vous dire, la capitalisation n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, c'est vraiment un dérivatif, c'est une manière de déplacer le débat ailleurs que sur la question de l'âge de départ à la retraite, le niveau des cotisations et le niveau des pensions. Ce débat-là, il faut le traiter pour tout de suite. Il y a un expert du secteur, Bertrand Martineau, qui a fait une note à la fondation, à la Fondapol, pour plaider pour la capitalisation. Il dit clairement dans cette note que ça commencera à produire des effets si on met en place un système en 2070. Donc la capitalisation, c'est pour dans deux ou trois générations.
Ouais, il faut le temps d'épargner et que ça fasse des petits, comme dit Marc Vignon.
Voilà, donc surtout, ne nous méprenons pas sur la place de la capitalisation. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de capitalisation pour 2070, bah peut-être parce que, comme le disait Marc, la répartition, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les pensionnés. Vu la forme de la pyramide des âges, comme les baby-boomers vont être à la retraite et qu'il y a un peu moins d'actifs, bah les actifs vont devoir supporter plus. Donc on peut se poser la question de s'il y a toujours moins d'actifs en France, comment on fait pour plus tard ? La difficulté, c'est que si on veut créer une capitalisation, une retraite par capitalisation, il faut commencer à cotiser maintenant. Et il faut cotiser maintenant pour la capitalisation
et, est-ce que tout le monde
et
peut
cotiser maintenant pour la répartition. Donc c'est la double peine pour les générations qui viennent.
Je suis parfaitement d'accord avec Sophie.
Alors c'est pas un débat aujourd'hui, c'est un consensus.
Il faut commencer maintenant si on veut faire de la capitalisation. Et l'avantage de la capitalisation, c'est le contexte démographique. C'est-à-dire que contrairement à l'après-guerre, on est dans un contexte démographique où le rendement du régime par répartition, bah, nécessairement, il est calé sur la croissance économique qu'on peut dégager et il est tiré vers le bas par le fait qu'il y a toujours moins d'actifs pour cotiser pour les retraités. Le problème, effectivement, c'est la transition. Comment on fait alors qu'on a déjà des cotisations très élevées et qui servent à donner des pensions actuellement, si on prend une partie des cotisations et qu'on se dit bon bah là, c'est des cotisations individuelles qui serviront à servir des retraites dans le futur, aux futurs retraités, bah, ça veut dire qu'on n'a plus l'argent de ces cotisations là disponibles pour servir les retraites d'aujourd'hui.
Sauf à avoir des très bons salaires.
C'est pour ça que ceux qui évoquent la capitalisation, qui disent on peut amorcer des fonds, cherchent certaines ressources. Alors, il y en a qui disent on peut aller regarder du côté des réserves du régime complémentaire du privé. Vous savez, les Agirc-Arrco. Il y en a qui disent on va vendre des participations de l'État dans des entreprises cotées qui ne servent pas à grand-chose, type Orange, etc. Et puis, on va amorcer la capitalisation
grâce à ça. C'est la proposition Xavier Bertrand, c'est ça ? Gérald Darmanin.
Et puis, il y en a d'autres qui disent vous allez travailler plus et donc vous allez commencer à constituer le fonds par capitalisation pour vous garantir de bonnes retraites plus tard. Alors, il faut avoir conscience quand même que dans le système actuel, c'est vrai que le déficit existe dans le futur, mais il sera relativement limité parce que les réformes précédentes font que, comme les retraites sont revalorisées sur l'inflation et non pas sur les salaires, le pouvoir d'achat relatif des retraités par rapport à celui des actifs, il est programmé pour diminuer. Ça ne veut pas dire que les retraites vont diminuer en euros, elles vont continuer à progresser. Mais par rapport aux actifs, les retraités seront moins bien lotis. Et donc, on va avoir quand même un appauvrissement relatif des retraités par rapport aux salariés dans les prochaines années.
Sophie ? Alors, moi, je me pose quand même des questions sur cette capitalisation. Je vais essayer de vous apporter la contradiction. C'est quand même risqué, la capitalisation. Le yo-yo, vous avez dit, il y a des guerres, il y a des crises, et nous, on en a de plus en plus. Ça rince les placements boursiers,
mais
ça.
Mais si vous avez des placements, vous n'êtes pas obligé de faire tout sauter. Vous n'êtes pas obligé de... Quand il y a un problème sur la bourse, si vous avez fait des réserves, vous lissez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de diminuer la retraite de 30% de la génération qui avait la retraite si à ce moment-là, vous avez une crise. Et si vous avez fait des gros gains avant, vous avez quand même encaissé ces gains.
Sophie, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous pensez que ça peut être un système juste, un système avec de la capitalisation ?
Alors, ça pose deux problèmes. D'abord, le risque financier existe et on l'a vu dans plusieurs pays. Et puis là, on peut se dire, on est en fin de cycle. On a eu vraiment une très, très forte hausse de la bourse et des marchés financiers. Est-ce qu'on n'est pas un peu... On a aussi une explosion des inégalités. Est-ce qu'on n'est pas un peu aujourd'hui dans la même situation qu'en 1910 où on n'a jamais eu autant d'inégalités et une bourse qui, parfois, on voit bien que Warren Buffett, le plus grand investisseur américain, il est allé complètement... Il a du cash, il n'a pas des actions parce qu'il a peur justement d'un krach boursier.
Absolument.
Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va, cette capitalisation, atténuer les inégalités ou au contraire les renforcer ? Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'en fait, la retraite par capitalisation, on l'a fait sans le dire en France, c'est que ça accentue les inégalités. On l'a fait de quelle manière ? On l'a fait en achetant un bien immobilier. Quand on est propriétaire de son logement, on ne paye pas de loyer à la retraite. Et au fond, c'est une forme de
Vous élargissez le concept, là.
Et puis, la deuxième chose, c'est l'assurance-vie. Quand vous regardez les placements en assurance-vie, ils dépassent 2000 milliards d'euros en France. Et donc, c'est bien aussi une manière de se constituer une épargne. Et puis, elle existe aussi sous une troisième forme. C'est le plan épargne-retraite, le PER, qui a été créé par la loi Pacte. 11 millions des Français en ont un. Les entreprises peuvent aider à en mettre un en place. Et on voit bien que ça profite aux salariés les plus aisés, ceux qui ont une capacité d'épargne, ou aux Français, même pas salariés, mais qui ont une capacité d'épargne, et pas aux autres, qui, eux, n'ont rien.
Et bien justement, Sophie, alors là, vous venez de plaider formidablement pour la capitalisation collective, pour faire un système collectif, parce que là, vous dites, il y a des déductions fiscales, on paye pour faire des déductions fiscales pour ceux qui ont les moyens d'épargner individuellement pour faire leur retraite, alors que dans un système collectif, bah, il y aurait une sorte de solidarité, tout le monde serait obligé de cotiser. Aujourd'hui, la capitalisation, elle est essentiellement pour le secteur privé, volontaire, c'est ceux qui ont les moyens, qui vont chercher des déductions fiscales pour se constituer une retraite. Bah, pourquoi pas le faire pour tout le monde et le faire de manière solidaire et puis les syndicats n'arrêtent pas de nous dire il y a trop de dividendes qui viennent des entreprises du CAC 40 qui sont produits à l'étranger. Ils essaient de vouloir les taxer en France, mais en fait, ce n'est pas possible. Et donc, ils nous disent il y a trop de dividendes. Bah, faisons que tous les salariés puissent en profiter grâce à un fonds de capitalisation. Après, Marc, le problème, c'est le financement de la transition.
Oui, absolument.
Ce n'est pas une recette miracle.
Mais pas que. Est-ce que plus de capitalisation ça veut dire moins pour la répartition ? Sophie ?
Alors, la difficulté, c'est qu'il faut payer deux fois.
Ah oui.
Donc,
les salaires restent les mêmes, à moins d'augmenter les salaires, comment on fait ?
La seule solution pour la phase de transition, c'est que l'État, on l'entendait très bien dans le ZAP, ce que disait Emmanuel Grimaud, c'est que l'État apporte de l'argent à ce système, et avant qu'il apporte ces 150 points de PIB qu'il faudrait, on sait bien qu'il n'en a pas les moyens aujourd'hui. Donc, on voit bien que c'est en cela que c'est un peu un dérivatif. La deuxième question, c'est pour les syndicats, ce qui n'est pas facile pour les syndicats, ça veut dire qu'on accepte la financiarisation de l'économie. Ça veut dire qu'on accepte que l'entreprise, le but de l'entreprise, c'est d'avoir toujours plus de rendement, d'améliorer. Et on voit bien qu'aux États-Unis, ça pose certains problèmes, notamment sur la question de la transition écologique. Il y a des fonds de pension qui ont énormément de mal à dire on interdit les énergies fossiles, parce que si ce sont les investissements dans les énergies fossiles qui rapportent le plus à court terme, est-ce que vous pouvez vraiment en priver vos fonds?
Et non, donc,
c'est un débat qui est encore plus large sur le modèle économique et sa financiarisation.
Mais personne ne parle de faire 100% de capitalisation. Donc, si on constitue juste des fonds, c'est très progressif. Ben, il n'y a pas besoin de mettre tout son argent sur les marchés aujourd'hui.
Finalement, c'est un débat. Marc Vigneault et Sophie Fay, ils ont fait le débat éco de ce samedi 10 mai.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de industrialización.
Unemployment and lower job creation.
L'éco en VO, c'est l'économie comme elle tourne ailleurs. Eh bien, elle ne tourne pas tout à fait dans le même sens qu'avant en Allemagne. Je vous propose d'écouter le nouveau ministre de l'Agriculture allemand. Devant les caméras, il y a quelques jours, il est très fier de son fameux pain de viande, le Leberkäse.
Ja, erst einmal ist aus frischesten Materialien gemacht und heute Morgen gemacht. Und vor allem ist wirklich von mir selbst gemacht.
Bah oui, il a été fabriqué ce matin avec des bons produits et surtout, c'est moi qui l'ai fait. Voilà ce que dit Alois Reiner. C'est l'un des 17 ministres du gouvernement Merz, investi mardi dernier. Et c'est l'un de ceux qui symbolise le plus le virage politique à venir. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter en Allemagne. Avec vous, on va faire un petit trombinoscope de ceux qui feront, durant les 4 prochaines années, la politique économique du pays. Alors d'abord, Sébastien, tiens, parlez-nous d'Alois Reiner que certains appellent le boucher noir.
Ah oui, ça peut faire peur comme ça, mais on l'appelle le boucher noir. Le boucher, d'abord parce que c'est son métier, c'est très simple. Il détient d'ailleurs le record mondial de la plus longue saucisse, tenez-vous bien, 825 mètres. Et noir parce que c'est la couleur de la CDU-CSU, le parti conservateur. Au ministère de l'Agriculture, Alois Reiner, le boucher, donc, remplace Cem Özdemir, le végétarien. Dans l'une de ses premières interviews, le nouveau ministre a défendu une alimentation équilibrée dans les écoles et les crèches, ce qui veut dire pour lui que la viande doit figurer dans les menus, comme les fruits et légumes, une déclaration qui va à contre-courant de la tendance actuelle, alors que la Fédération allemande de l'alimentation recommande de servir de la viande dans les écoles au maximum une fois par semaine. Reiner écarte aussi l'idée qui était défendue par son prédécesseur d'augmenter la TVA sur la viande. Conclusion sans appel du président de la Bavière, grand amateur de kebab, on va pouvoir manger à nouveau du pâté de viande à la place du tofu.
La nouvelle ministre de l'économie allemande, Sébastien, c'est aussi un profil tout à fait différent de son prédécesseur, le vert Robert Habeck.
Oui, c'est une conservatrice comme Friedrich Merz, le nouveau chancelier. Katharina Reiche, 51 ans, est chimiste de formation et chef d'entreprise. Elle dirigeait depuis 5 ans Westenergie, c'est une filiale du fournisseur d'énergie E.ON, ce qui lui vaut d'être qualifiée de lobbyiste du gaz par les Verts, le parti de Robert Habeck. La nouvelle ministre promet une rupture avec son prédécesseur pour sécuriser l'approvisionnement en énergie. Mise à mal, vous le savez, depuis la guerre en Ukraine, elle mise sur la construction de centrales à gaz plutôt que sur l'éolien et le solaire que souhaitait promouvoir Robert Habeck.
Et puis pour terminer, il y a un homme clé dans tout gouvernement allemand, c'est le ministre des Finances, Sébastien. Le nouveau s'appelle Lars Klingbeil.
Oui, Alexandra, il est aussi vice-chancelier, même si le magazine Der Spiegel le qualifie d'impassible, presque ennuyeux. Lars Klingbeil, 47 ans, silhouette ronde, est le nouvel homme fort du parti social-démocrate du chancelier sortant Olaf Scholz. Un politicien certes chevronné, mais sans expérience ni compétences particulières en matière économique. Son défi pourtant, gérer des centaines de milliards d'euros, une somme que son prédécesseur n'avait pas à disposition. C'est l'assouplissement du frein à la dette courant mars qui a permis de libérer ce budget destiné à réarmer et à moderniser l'Allemagne. Klingbeil, fan du Bayern Munich, a réussi un tour de force, survivre politiquement alors que le SPD, dont il est le chef, a essuyé son pire résultat de l'après-guerre aux législatives de février.
Sébastien Baer avec nous de Berlin. Dans moins de 10 minutes, nous serons avec le professeur à HEC et à Oxford, Olivier Siboni, pour parler de la diversité et de son livre « La diversité n'est pas ce que vous croyez ». Avant cette interview, Zoom ce matin sur la transidentité dans le monde du travail. Alors, il faut d'abord regarder le paysage, la société dans son ensemble. Combien de personnes transgenres ? Eh ben, en France, le chiffre n'existe pas. Mais au Canada, par exemple, on sait que 0,33% de la population s'est déclarée trans ou non-binaire en 2021. Si on extrapole à l'Hexagone, on peut estimer que chez nous, plus de 180 000 personnes seraient concernées. Dans les entreprises, se rendre visible, ça reste encore une démarche difficile. Là, c'est un chiffre du BCG Consulting, du Boston Consulting Group. Seuls 2 salariés transgenres sur 10 ont fait leur coming out au travail. Nombre de personnes trans choisissent plutôt de devenir des professionnels indépendants. Et ben, c'est le cas de Capucine, que notre reporter Valentin Gris a rencontré dans un café LGBT à Lille. Rendez-vous au Bayard.
Bonjour.
Bonjour.
Valentin. Capucine. Je m'installe du coup, ce sera un peu plus simple.
J'ai commencé ma transition il y a 7-8 ans. À l'époque, je faisais encore beaucoup de photos, j'étais encore à mon compte. Je cultivais ce look androgyne, on va dire. Mes clients, ils ont tendance à dire « bon, il est artiste ». Je dis « il » parce qu'à l'époque, je n'avais pas fait de coming out.
Comment est-ce que vous avez annoncé ça à vos clients ? Voilà, comment est-ce qu'ils ont reçu la nouvelle au départ, au moment de vraiment de l'annonce de cette transition ?
Ils se sont dit « j'en ai rien à foutre de ton genre ». Nous, ce qu'on veut, c'est ta qualité de photo. Donc voilà, je ne vais pas crier à la transphobie, même si des fois on le ressent. J'avais un gros client qui, quand je l'ai annoncé à la directrice de communication, m'a dit « je te comprends et tout, mais je ne pourrais plus te faire travailler en tant que photographe. Tout le monde te connaît en tant qu'homme, ça sera bizarre et tout. » Je bosse avec des agences événementielles. L'agence événementielle peut dire « ouais, nous, ça ne nous dérange pas, mais ça peut déranger son client. » Donc c'est compliqué, quoi. Une agence événementielle va devoir vous vendre, d'accord ? Il vous a déjà vendu 2-3 ans avant, les photos étaient bonnes et tout, mais c'est pareil. Je veux récupérer le photographe que j'avais eu il y a un an. Oui, mais enfin, il n'y a plus vraiment le même look. Hein. Alors, je viens pas en jupe hein, quand je suis en photo parce que c'est pas pratique, mais ça se voit, quoi. Moi, ce que je peux remarquer, que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup qui ont des postes à responsabilité, déjà d'une. Moi, j'en connais qui ont attendu leur retraite pour faire leur transition, leur coming out et tout. Moi, ceux d'une cinquantaine d'années, je vais dire 50 et plus, sont toutes indépendantes aujourd'hui. Il y en a quelques-unes qui sont restées dans leur boulot parce qu'elles avaient du caractère. C'était affirmé, mais c'était compliqué. Il y avait un film avec Daniel Auteuil qui s'appelle Le Placard. Des fois, elles l'ont un peu connu, quoi. Hein. C'est, je passe de responsable à, tiens, on va plutôt te mettre là-bas, quoi.
Alors, le monde du travail est-il un terrain hostile pour les salariés transgenres ? Au bureau, en tout cas, les stéréotypes persistent. Ils se retrouvent parfois mégenrés par leurs collègues ou leurs employés. C'est le fait d'être désigné par le mauvais pronom « il » au lieu de « elle », par exemple. Plus du tiers de ces salariés transgenres a même déjà été victime d'une agression au travail, verbale ou physique. Me voici maintenant dans le 18e arrondissement de Paris, près de la Porte de la Chapelle, au siège d'AcceptST, une association qui accueille et accompagne des personnes transgenres. Sa référente emploi, Maëva Baudry, décrit une culture transphobe qui continue à dominer dans les entreprises.
Il y a une réelle déshumanisation des personnes trans. La communauté trans a tellement connu une exotisation, une fétichisation. Donc on se retrouve souvent soit mégenré, soit tous les stéréotypes qu'on peut avoir et toutes les micro-agressions aussi qui font que c'est aujourd'hui ça qui sont des points bloquants pour la réinsertion professionnelle des personnes trans, mais également les personnes trans qui peuvent être en entreprise, qui transitionnent pendant leur parcours professionnel et qui se retrouvent totalement dans une précarité du jour au lendemain parce que leur identité de genre n'est pas acceptée ou n'est pas reconnue.
Est-ce qu'il y a un cadre aujourd'hui qui commence à se mettre en place pour accueillir et respecter l'identité des personnes qui font leur transition ?
Alors absolument pas. C'est au bon vouloir de chacun.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va bien.
Ouais.
Pour le moment, ça va.
Parmi les pionniers, on trouve Legrand, un groupe industriel qui fabrique des interrupteurs et des équipements électriques. Inès Duquit dirige son service communication. Elle a réalisé sa transition après avoir démissionné de son précédent poste chez un autre employeur. Je la rencontre au siège de la société à Bagnolet, en région parisienne.
La transition que j'ai entamée, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans. Le sujet de la transidentité n'était pas un sujet aussi fluide qu'il peut l'être aujourd'hui, et en entreprise, et dans la société, et dans les médias. Donc ça veut dire que même dire qu'on est lesbienne ou qu'on est homosexuel, c'était encore tabou. On mettait ça sur le compte de « c'est du privé, c'est de l'ordre du privé », donc ça n'a pas sa place, entre guillemets, à être amené en entreprise. En représentant un métier de la communication, j'étais exposée à beaucoup de publics, à l'externe comme à l'interne, et je me suis dit, en fait, je vais être réduite que finalement à cette transition et je n'allais plus être vue pour mes compétences. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de démissionner de mon poste à ce moment-là dans lequel j'étais et dans lequel j'étais épanouie pour pouvoir faire mon parcours de transition et être tranquille et à l'aise pour pouvoir faire ce parcours.
Bonjour, je suis Hélène Tagliabu, DRH Europe et directrice diversité et inclusion du groupe Legrand. Quand on a publiquement déclaré qu'une de nos priorités était l'inclusion LGBT+, j'ai été contactée par un salarié qui m'a dit « je vois que Legrand est ouvert sur ces questions-là, je souhaite vous dire que je vais entamer ma transition de genre, comment est-ce que vous pouvez m'accompagner ?»
De l'extérieur, moi, c'est un cas qui a été porté à ma connaissance. Moi, ça m'a permis de me dire, en fait, je vais rentrer dans une entreprise où je sais qu'en tout cas, ce groupe a déjà pris cette problématique, en tout cas, et l'a traitée. Et donc, quand je suis arrivée chez Legrand, cette information, l'information liée à ma transidentité était publique. Et j'avoue que je me suis reposée là-dessus en me disant, j'arrive chez Legrand, Google fait le coming out à ma place, c'est très bien, j'aurais pas besoin de l'évoquer, en tout cas, lors d'un entretien de recrutement.
La question de la communication, elle est clé. On vous connaît sous un certain prénom. Effectivement, vous arrivez un jour et vous dites « désormais, vous devez m'appeler d'une autre manière ». Tout ça, ça s'organise.
Appeler la personne par le prénom qu'elle s'est choisi, respecter le genre qu'elle s'attribue, voilà ce que recommande L'Autre Cercle, une association qui conseille les entreprises sur leur politique d'inclusion. Parmi les autres bonnes pratiques émergentes en France, la création de groupes de salariés LGBT pour créer des rôles modèles au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on retrouve chez Legrand ou à la Société Générale. IBM et la Maïf, de leur côté, offrent des congés aux salariés souhaitant réaliser leur transition.
Je m'appelle Thomas Delano, je suis directeur associé au Boston Consulting Group à Paris. Moi, je pense que le levier numéro un, c'est toujours la bienveillance. Lorsqu'on regarde dans les chiffres, il y a des chiffres qui ressortent, par exemple, qui montrent que les personnes LGBT qui font leur coming out au travail, elles ont plus d'amis sur le lieu de travail. Et donc, du coup, elles ont aussi vocation à y rester plus longtemps. Et ça, ultimement, c'est un levier de performance. Les entreprises très avancées vont aussi, par exemple, s'assurer que les mutuelles vont couvrir un certain nombre d'actes qui ne sont pas couverts aujourd'hui par la sécurité sociale. Et donc, on voit notamment dans le monde anglo-saxon un certain nombre de mutuelles qui vont aller jusqu'à couvrir, par exemple, les frais de changement vestimentaire.
Comment est-ce que les entreprises peuvent, et est-ce que c'est leur rôle aussi, de mettre en place des réseaux à l'intérieur de leur structure pour à la fois donner des rôles modèles, créer du dialogue? Est-ce que c'est un levier qui est important, nécessaire? Comment est-ce que vous qualifiez ce type de dispositif quand ils existent?
Plus que les politiques sur le papier, ce qui favorise l'inclusion au sein d'une entreprise, c'est est-ce qu'on a des personnes qui sont issues de la diversité, qui ont réussi dans cette entreprise et qui sont visibles. Et donc avoir des personnes LGBT, avoir des personnes transgenres qui se retrouvent par exemple à des postes de direction, ça c'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence et qui favorise un sentiment d'inclusion au sein des entreprises. Et c'est là où les réseaux ont un rôle à jouer, parce que bien souvent ils vont être sponsorisés par quelqu'un soit LGBT, soit tout simplement même un allié, mais qui va porter la parole du management pour dire « ce sont des sujets sur lesquels on a envie de s'engager ».
Dans le monde du travail, la difficile intégration des personnes transgenres, c'était le reportage de Valentin Grille.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Olivier Siboni, professeur à HEC et à Oxford, est notre invité. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Votre ouvrage « La diversité n'est pas ce que vous croyez », vous le publiez aux éditions Flammarion. On a écouté ensemble le reportage et vous, au sujet de la diversité, vous voulez secouer un petit peu le cocotier. Alors je vais résumer le premier argument de votre livre. Régulièrement, nous recevons des études qui affirment que la diversité, c'est bon pour les entreprises, que ça fait plus d'ouverture d'esprit, plus de créativité, que donc les affaires marchent mieux. Olivier Sibonis, ce que vous affirmez, c'est que cet argument de performance économique grâce à la diversité, finalement, c'est une idée reçue, c'est quasiment de la propagande.
C'est une idée reçue, effectivement, et j'avoue que ça m'a surpris, moi aussi, parce qu'on le lit tellement, on l'entend tellement, on le voit tellement, que ça finit par devenir une évidence. Il y a même des tas d'études qui commencent, enfin des tas d'articles
on
qui commencent
chiffres,
par...
Oui.
Mais c'est une évidence, tout le monde le sait, que la diversité, ça va améliorer la performance de l'entreprise. Il s'avère que quand on regarde les études académiques sérieuses là-dessus, qui, bien sûr, ont toutes essayé de le démontrer, c'est-à-dire que les chercheurs, en général, sont plutôt, qui travaillent sur ce sujet, en général, ont plutôt envie de montrer que la diversité, c'est bien. Moi aussi, d'ailleurs, je vais y venir, évidemment. Mais il se trouve que si on essaye de montrer qu'augmenter la diversité dans une entreprise va améliorer la performance globale de l'entreprise, la réponse est qu'on n'y parvient pas. Au fond, pourquoi ? Ça ne devrait pas nous surprendre. Ça ne devrait pas nous surprendre parce que la performance globale d'une entreprise, c'est quelque chose qui dépend d'énormément de facteurs. Et s'il y avait un seul levier sur lequel on pouvait jouer pour améliorer la performance de toutes les entreprises, on le saurait.
Mais on a quand même, on a quand même beaucoup d'études avec des chiffres. Donc ouais. Sont-elles fausses, sont-elles mal lues, qui nous disent quand il y a plus de femmes, c'est 30% plus rentable.
Elles sont mal lues ou elles sont mal faites. Alors, elles peuvent être mal lues parce que ça peut être des études sur des exemples, sur des petits échantillons qu'on ne peut pas généraliser, ou elles peuvent être mal faites parce que si ce que je veux montrer, c'est que, comme vous venez de le dire par exemple, si j'ai plus de femmes dans mon comité de direction, je vais avoir une performance plus élevée, bah, il suffit d'aller choisir un sous-échantillon, de chercher jusqu'à ce qu'on trouve le sous-échantillon dans lequel cette hypothèse va être vraie. Quand on fait une étude académique sérieuse, qui est publiée dans un journal à comité de lecture, on n'a pas le loisir d'utiliser ce genre de raccourci, et donc on est obligé d'arriver à une conclusion qui est que la diversité démographique n'est ni bonne ni mauvaise pour la performance. Mmh. Est-ce que c'est une raison de ne pas rechercher la diversité ? Non ! Il y a des tas d'excellentes raisons de rechercher la diversité, sans aller chercher cet argument économique utilitariste, qui, en dehors du fait qu'il est faux, devrait être complètement inutile. Mmh. Parce que, on vient de l'entendre dans ce reportage, si on a des personnes qui sont traitées d'une manière inégale, d'une manière injuste, en raison de leur appartenance à telle ou telle catégorie, c'est tout simplement mal. Donc... C'est mal, et accessoirement, c'est illégal. Offrir à tout le monde les mêmes opportunités, quel que soit son genre, son identité sexuelle, etc., ça devrait être absolument normal et on ne devrait pas avoir à le justifier par un argument économique.
Alors, vous dites,
pourquoi est-ce qu'on utilise cet argument ?
Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas rechercher la diversité en le justifiant par un argument économique, il faut conserver juste l'argument moral, il devrait nous suffire. C'est ça
l'argument
votre conviction ?
L'argument éthique devrait nous suffire, de la même manière que si je vous dis qu'avoir moins d'accidents du travail dans votre entreprise, c'est bon pour la bottom line, c'est un argument épouvantable. Vous voulez avoir moins d'accidents du travail dans votre entreprise parce que vous voulez avoir moins d'accidents du travail. Ben, la diversité, c'est pareil.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on en est rendu à cet argument économique ?
Je crois qu'on en est rendu à cet argument économique parce qu'on a pensé pendant longtemps que les dirigeants avaient besoin qu'on leur donne un argument économique pour être convaincus et que l'argument éthique ne suffirait pas. Et je crois qu'on sait, comme le disent beaucoup de chercheurs d'ailleurs, tirer dans le pied en faisant ça. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que cette absence d'argument économique sert en fait d'alibi à la réaction, au backlash anti-diversité qu'on voit notamment aux États-Unis, où les adversaires de la diversité, qui en sont les adversaires pour des raisons absolument idéologiques, entendons-nous bien, ont beau jeu de dire « Regardez, on nous a promis des bénéfices économiques qui ne se matérialisent pas, c'est donc qu'on nous a menti.
» Aux États-Unis, arrêtons-nous une seconde sur cette situation. Aux États-Unis, en effet, l'administration Trump fait la guerre à toutes les politiques d'inclusion, de diversité, d'équité dans les entreprises. Est-ce que c'est la même situation aux États-Unis qu'en France ? Est-ce que la situation américaine, où on voit qu'il y a des entreprises qui... Jette par-dessus bord toutes ces politiques sans y penser plus. Est-ce que ça peut éclabousser la France ? Ça peut aller jusqu'à nos entreprises ?
Ça n'est pas du tout la même situation, mais elle a quand même un enseignement. C'est pas du tout la même situation parce que les politiques de diversité telles qu'elles ont été organisées aux États-Unis sont des politiques très différentes de celles qu'on a chez nous, qui pour beaucoup seraient illégales en France.
Par exemple,
des quotas raciaux. Quand on dit qu'on veut avoir tel pourcentage de noirs dans une entreprise et que donc déjà on va les compter, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas le droit de faire en France, et à mon avis c'est très bien comme ça. En revanche, il y a un enseignement tout à fait intéressant, c'est que toutes ces entreprises qui nous disaient la main sur le cœur qu'elles étaient profondément attachées à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, ont pour certaines rayé d'un trait de plume l'ensemble de ces politiques, ce qui vous montre bien que leur croyance dans le fait que c'était profondément ancré dans leurs valeurs et ou que c'était économiquement rentable étaient des croyances tout à fait superficielles.
Mmh. Donc c'est un accès de fièvre américaine, mais est-ce que ça peut avoir des séquelles chez nous ?
Je ne pense pas, parce qu'encore une fois, on a des politiques très différentes, justifiées par une histoire très différente.
C'est-à-dire, donc, chez nous, c'est égalité des chances, et chez eux, c'est à chacun une représentation égalitaire. C'est ça la différence ?
En gros, c'est ça le débat. Alors, il y a bien sûr des gens qui utilisent des arguments américains chez nous, mais la conception française de l'égalité des chances consiste à donner, en principe, à chaque individu, et non pas à chaque groupe, les mêmes chances. Maintenant, la question est, est-ce qu'on y arrive vraiment ? Et
alors,
clairement,
voilà.
On n'y arrive pas.
Alors, je reviens au livre et au paradoxe. En effet, on n'y arrive pas que vous mettez en lumière. Les entreprises vantent la diversité. Elles nous disent qu'elles lui dédient un budget. Et pourtant, quand on regarde les organigrammes, on cherche encore les femmes et les minorités. Est-ce que vous semblez dire que c'est pire dans le monde du travail que partout ailleurs dans la société ?
J'ai moi-même été surpris en allant regarder les chiffres, je veux dire. Parce que les entreprises nous disent souvent ce problème n'est pas que le nôtre, il commence à la petite école, où les petites filles ne sont pas traitées de la même manière que les petits garçons. Et d'ailleurs, regardez, dans la société, on a peu de rôle modèle féminin, y compris en politique, milieu très macho, etc. Tout ça est évidemment vrai. Néanmoins, quand vous regardez les chiffres, alors regardons, je parle des femmes parce que c'est le seul domaine sur lequel on a le plus de, enfin, c'est le domaine sur lequel on a le plus de chiffres et c'est celui sur lequel on a les séries les plus longues. Regardez en politique, par exemple. Je crois volontiers que c'est un milieu très macho et qu'on n'est pas du tout à la parité, mais même si on n'est pas à la parité, on s'en est rapproché beaucoup plus que dans les entreprises. À l'Assemblée nationale, on a, je crois, 37% de femmes. Parmi les présidents de région, 33%. Dans les gouvernements, on est souvent à 50%. Dans le gouvernement actuel, je crois qu'on est à 42%. Combien de PDG dans le CAC 40 ou dans le SBF 120 ? On tourne autour de 10. Alors bien sûr, 37, 42, c'est pas 50, c'est pas parfait. Mais c'est quand même beaucoup mieux que 10.
Et alors la question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que dans ce monde des entreprises, ça ne marche particulièrement pas ? Il y a le discours et puis il y a les actes. Est-ce que c'est de l'hypocrisie ? Qu'est-ce qui se passe ? Et surtout, que peut-on faire pour changer la situation ?
Je ne crois pas que ça soit de l'hypocrisie. Je crois que c'est un problème beaucoup plus élémentaire que ça. En fait, la question, c'est comment est-ce qu'on choisit les dirigeants dans les entreprises ? Par quelle méthode, par quel processus, avec quels critères est-ce qu'on décide de promouvoir telle personne pour devenir manager, puis pour devenir vice-président, puis, au bout du compte, pour rentrer dans un comité exécutif ou pour devenir président ? Quand vous regardez comment se passent ces processus-là, vous apercevez qu'en fait, ils laissent énormément de place à un stéréotype du leadership, à une espèce d'idée de ce que doit être le leader qu'on veut avoir à la tête de nos entreprises. D'ailleurs, si je vous demande, citez-moi un leader qui vous vient à l'esprit là tout de suite.
Oui, je vais vous dire Elon Musk.
Vous allez
évidemment
me dire Elon Musk comme tout le monde, sauf les gens qui me disent « Ah, j'ai envie de vous dire Elon Musk, mais je sais que c'est ça qu'il ne faut pas répondre. » Donc bon, on peut avoir un surmoi plus ou moins développé. Mais enfin, grosso modo, on a toujours cette espèce de cliché-là. C'est ce cliché, c'est ce stéréotype qui
de
fait
l'homme.
Qu'on va...
De la virilité, de l'homme blanc qui en
d'un
veut,
certain type
ambitieux,
d'homme,
c'est
absolument,
ça
d'un certain type d'homme. D'un certain... Non seulement c'est un homme, c'est Elon Musk, mais c'est pas n'importe quel homme. C'est un homme agressif, ambitieux, compétitif, sûr de lui, qui prend des risques. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que non seulement c'est un stéréotype qui va plus souvent nous pousser vers des hommes que vers des femmes, mais il n'est pas du tout sûr qu'il nous pousse vers les bons hommes. Et je crois que ce que vous dit le manque de diversité dans les entreprises, si vous êtes un dirigeant, c'est pas seulement que vous n'avez pas assez de femmes, c'est que peut-être que les hommes que vous avez ne sont pas les meilleurs.
Donc si on va chercher les meilleurs, on aura plus de diversité. C'est ça votre conclusion. Est-ce que Olivier Cibony, vous pouvez nous donner un exemple, c'est ma dernière question, de ce qu'on peut faire, à quel niveau, pour créer de la diversité dès le début ?
Je vous donne un exemple tout bête. Quand on a un poste qui s'ouvre dans une entreprise, on fait un appel à candidature. On va dire, alors qui est candidat à ce poste ? Et toutes les entreprises vous diront, on a toujours plus d'hommes que de femmes qui postulent. Si on disait, au lieu de faire appel à des candidatures, c'est-à-dire de demander aux gens qui pensent qu'il est qualifié, si on identifiait les personnes qualifiées et qu'on leur disait, ben, à partir de maintenant, on considère que vous êtes candidat, sauf si, bien sûr, vous dites que vous n'êtes pas intéressé. Ben, on aurait tout de suite plus de candidates, et puis on aurait aussi des profils qui, peut-être, sont en fait bien plus aptes à tenir le poste en question.
Des arguments contre les idées reçues, et puis des solutions. Dans ce livre, La diversité n'est pas ce que vous croyez, c'est chez Flammarion. Merci Olivier Sibony.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Sandrine Foulon, Armel vous a écrit, elle est cadre dans une entreprise de nettoyage, elle va bientôt avoir 60 ans. La retraite progressive l'intéresse beaucoup, mais elle se demande si elle va y perdre aussi beaucoup financièrement, notamment sur la partie retraite.
Effectivement, Armel, dès le 1er septembre prochain, vous serez éligible à la retraite progressive à 60 ans. C'est ce que prévoit un décret du gouvernement. Je rappelle le principe. Normalement, cette mesure, qui est très peu connue, est accessible 2 ans avant le départ à l'âge légal. Avec le passage à 64 ans, ce devait être 62 ans, mais les partenaires sociaux ont obtenu que cette possibilité soit maintenue à 60 ans et pour tous, salariés du privé, fonctionnaires, indépendants, agriculteurs, professions libérales. Ça veut donc dire que vous pouvez travailler à temps partiel, entre 40 et 80% pendant au moins 4 ans. Vous percevez une partie de votre salaire correspondant au temps partiel choisi, et le reste est comblé par votre pension de retraite. Ce qui fait au final que cette réduction du temps de travail est mieux rémunérée qu'un temps partiel classique, mais vous ne toucherez jamais l'intégralité de votre ancien salaire. Et il y a des conditions. D'abord, que votre employeur soit d'accord. Même s'il doit motiver son refus par écrit, il peut toujours s'y opposer. Ensuite, il faut avoir cotisé 150 trimestres. C'est là, Armel, que la calculette devient utile. En fonction du nombre de trimestres manquants, il en faut 170 pour avoir une retraite à taux plein, il y aura effectivement une décote et ce qu'on appelle un coefficient de proratisation sur la partie pension. C'est vrai pour votre régime de base et pour vos points Agir Carco pour la retraite complémentaire.
Mais Sandrine, combien de temps Armel va-t-elle devoir supporter cette décote et que se passe-t-il quand elle atteindra 64 ans ?
Ce qui est intéressant dans le dispositif, c'est que vous continuez à cotiser pour la retraite et vous avez le choix. Dès que vous atteindrez l'âge légal, Armel, vous pourrez arrêter de travailler et liquider complètement vos droits à la retraite. À ce moment-là, votre pension sera recalculée et vous toucherez évidemment plus. À 64 ans, si vous cumulez à la fois l'âge légal et la bonne durée de cotisation, il n'y a bien sûr plus aucune décote. S'il vous manque encore des trimestres, ou si vous avez envie de surcotiser pour faire grossir votre retraite, vous pouvez aussi continuer à travailler. Encore une fois, Armel, il faut bien faire vos comptes. La retraite progressive, c'est un plus, mais ça ne couvrira jamais votre ancien salaire à plein temps. Vous devez aussi être certaine, par exemple, qu'en travaillant 14 heures par semaine, vous gagnerez suffisamment pour valider 4 trimestres par an. Il y a des simulateurs de calcul, mais un coup de fil à un conseiller retraite, voire à un conseiller France Travail, pour vérifier sur quelle base seraient calculées vos indemnités en cas de chômage, c'est toujours mieux pour assurer vos arrières.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.